parole du jour avec le Père Willem.
Étrange christianisme. Nous ne lisons pas la Bible comme elle prétend être lue. La présence de la poésie dans la Bible est la clé d'une lecture plus pertinente et plus fidèle. Ce sont d'importantes convictions. Il se trouve dans la Bible beaucoup de poèmes. Nous le savons vaguement et sans trop y penser. L'intervention de la poésie dans un recueil de livres ayant une parole pressante et salutaire à faire entendre ne devrait-elle pas nous étonner? Et ne faudrait-il pas nous demander si la présence de cette écriture singulièrement consciente d'elle-même est désireuse, encore plus que la prose, d'une forme à faire vibrer, affecte le message biblique et en change la nature. Que les psaumes soient des poèmes ne déconcerte pas. Vu leur destination liturgique et l'abîme d'émotions individuelles et collectives qu'ils explorent, à la fois au cœur de la Bible et à part, nous pourrions penser que les psaumes mettent en évidence dans la personne et dans la communauté le vécu de la religion que d'autres livres bibliques auraient pour tâche de définir. Nous pouvons accepter le Cantique des Cantiques comme un poème d'amour, les Lamentations de Jérémie comme une suite d'élégies, Job comme un drame en vers, et nous découvrons sans trop de surprise un nombre considérable de poèmes dans les livres historiques. Le chant de Moïse et de Myriam, par exemple, dans l'Exode chapitre 15, le cantique de Déborah et de Barak dans les Juges chapitre 5, ou complaint de David sur Saül et Jonathan dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 1er. À bien y songer, cependant, la présence de tous ces livres poétiques dans un ouvrage où nous nous attendons à trouver des doctrines, ainsi que le passage vers la poésie dans tant de livres d'histoire, demande assurément réflexion. Et comment réagir au proverbe où la sagesse même est enseignée sous une forme poétique, ou à l'ensemble des livres prophétiques où la poésie est souveraine, oui vraiment souveraine, et où des avertissements de la plus grande urgence, oui, pour nous comme pour les contemporains, arrive en vers. C'est étonnant. Oui, n'est-ce pas vraiment curieux? Et la poésie survient dès les débuts. Au deuxième chapitre de la Genèse, au verset 23 par exemple, Adam accueille ainsi la création de la femme. « Voici enfin l'os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme. » Voilà un premier poème biblique. Ce sont les toutes premières paroles humaines rapportées, et il est tentant, et peut-être légitime, d'en tirer les conclusions. Adam a déjà nommé les animaux, mais l'auteur l'a seulement indiqué, sans inscrire les mots, prononcés. Il reconnaissait sans doute que dans le monde du commencement, dont il se sait exclu, ainsi que ses lecteurs, il devait exister un rapport intime entre le langage et le réel, entre les mots et les choses, que nous sommes incapables de retrouver. En faisant parler Adam pour la première fois, il lui donne un langage édénique, tel que nos langues déchues peuvent atteindre par instant seulement. Un langage édénique. Adam tire littéralement la femme, Issa, de l'homme, Ish, l'hébreu, grâce au plaisir qu'il prend au jeu de mots, aux accords ludiques et profondément sérieux entre les sonorités des mots et les êtres, objets, idées, émotions auxquelles il s'ouvre. C'est une langue particulièrement et providentiellement habile à suggérer ce que serait un rapport chaleureux entre notre langue et notre monde et une relation signifiante parmi les présences du réel. Affirmer en somme la gratuité de la plus légère des figures rhétoriques, le calembour. Surtout, dès que le premier homme ouvre la bouche, il parle en vers. L'auteur pensait-il que dans le monde de la merveille primitive, le langage était naturellement poétique? Serait-ce pour cela qu'Adam, aussitôt après avoir mangé le fruit défendu, répond à Dieu en prose? « J'ai entendu ton pas dans le jardin et j'ai eu peur. Oh oui, j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. Je ne voulais pas me présenter devant toi nu comme je l'étais, parce que tu ne comprendrais pas la nudité que je suis. » Alors, nous ne pouvons pas savoir. Mais le bref poème spontané d'Adam, qui nous semble entendre de si loin et de si près, sollicite notre attention et appelle notre pensée. Si la langue d'avant la chute était poétique, ou produisant des poèmes à des moments chargés de sens, la poésie représente-t-elle pour nous l'apogée de notre parler déchu, son commencement et sa fin, sa nostalgie et son espoir? En parcourant toute la Genèse, livre d'histoire et non pas recueil poétique, nous rencontrons du reste un nombre impressionnant de poèmes. C'est en poésie que Dieu donne la loi sur le meurtre et sa promotion, la promotion du pardon et aussi la punition, que sa famille bénit Rebecca, que Isaac prophétise l'avenir d'Ésaü, ou que Jacob bénit les 12 tribus d'Israël. Étant donné la difficulté que l'on éprouve parfois à identifier les passages en vers, il se peut bien que d'autres soient à découvrir. La Bible de Jérusalem présente Dieu comme parlant plusieurs fois en poésie dans les 3 premiers chapitres, à commencer par la création de l'homme, où la parole de Dieu donne naissance à la seule créature douée de parole. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Étrange christianisme.